Europe 1.
Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Il y a des jours où l'on se dit que c'est fichu, que l'obscurantisme est en train de gagner la partie en France et que la montée des intolérances va nous rendre la vie impossible dans les années à venir, surtout avec des responsables politiques d'extrême gauche qui glorifient les revendications des terroristes du Hamas, qui soutiennent la République islamique d'Iran et qui organisent des conférences pour nier l'existence d'Israël. Mais il y a des jours aussi où l'on se dit que rien n'est perdu, que nous devons, nous pouvons lutter contre cette propagande antisémite, que nous sommes capables de surmonter ces pulsions mortifères et de faire entendre notre voix, quitte à avoir des cibles collées dans le dos par ceux qui haïssent notre liberté et qui veulent changer et radicaliser notre société. Le fascisme a désormais un nouveau visage, celui de la France insoumise, comme le disait ce matin sur nos antennes l'historien Georges Bensoussan, on l'entendra. Le courage en a un autre, celui de ceux et celles qui se dresseront pour lui barrer la route. On va en débattre ce soir dans Punchline.
18h-19h sur CNews et Europe 1.
Punchline, Laurence Ferrari.
Il est 18h. Avant de développer ces thèmes de débat, d'abord le rappel des titres de l'actualité. À l'occasion des 80 ans de la Libération, Emmanuel Macron est en ce moment même en déplacement dans le Vercors. Le président de la République rend hommage aux combattants de ce célèbre maquis de la Résistance, l'incarnation d'une France indissociable de la République, selon les mots prononcés par le chef de l'État. Un an après le lancement de l'opération Wambushu, une opération Place Nette a été lancée ce matin sur l'île de Mayotte. L'objectif est de lutter contre l'insécurité et l'immigration. 1700 gendarmes et policiers sont mobilisés pour une période de 11 semaines. Le gouvernement a notamment pour ambition d'arrêter 60 individus particulièrement recherchés. Le GIGN célèbre aujourd'hui ses 50 ans. Avant 1974, la France ne disposait pas d'unité d'intervention spécialisée dans la gestion de crise et de contre-terrorisme. Chaque année, cette unité d'élite participe à une demi-douzaine d'exercices d'ampleur des héros nationaux. On est tous d'accord. Enfin, 194e jour de détention pour les otages retenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Trois de ces otages sont français. Ils se nomment Ofer, Orion, Orad. Nous pensons à tous ces otages ce soir et à leurs familles. Nous demandons, une fois de plus, leur libération immédiate et sans condition. Il est 18h02 pratiquement sur Europe 1 et sur CNews en direct avec Louis de Ragnel. Bonsoir, avec bonsoir. Rachel Kahn. Bonsoir, on a le plaisir de recevoir Amine El-Khatmi, essayiste. Bonsoir Amine.
Bonsoir Laurence.
Dans ceux que je citais il y a quelques instants qui se dresseront pour lutter contre l'obscurantisme, je vous mets évidemment beaucoup dans ces rangs-là. Sabrina Medjemer également. Merci bonsoir, beaucoup d'être là, essayiste. Alexandre Devecchio, journaliste. Bonsoir. On va s'intéresser, bonsoir, à la riposte israélienne après l'attaque de l'Iran. Elle n'a pas encore été lancée. On va rejoindre tout de suite à Tel Aviv notre envoyée spéciale Régine Delfour. Bonsoir Régine. Cette riposte israélienne aura lieu, c'est ce qu'a dit le chef d'état-major de Tsahal, mais on ne sait pas quand ou sous quelle forme. Quel est l'état d'esprit, quelle est l'atmosphère en ce moment dans le pays ?
Eh bien, après l'annonce de l'état du chef de l'état-major de l'armée israélienne que Israël allait répondre donc à cette riposte, les Israéliens l'ont salué. Ils sont heureux de cette riposte et vous l'avez dit, on ne sait pas encore de quelle manière ni quand. Il est peu probable que ce soit une riposte massive sur l'Iran puisque les Israéliens soutiennent le peuple iranien qui, pour eux, sont victimes de la République islamique d'Iran et donc du gouvernement des Mollahs, mais plutôt des frappes ciblées comme aujourd'hui dans le sud du Liban où Tsahal, l'armée israélienne, a annoncé l'élimination d'un commandant du Hezbollah qui avait participé notamment aux tirs de missiles sur Israël. Aujourd'hui, il y a eu aussi des frappes ciblées dans le centre de la bande de Gaza. Tsahal a annoncé avoir éliminé donc des terroristes. Alors il pourrait y avoir donc d'autres opérations ciblées, notamment en Syrie, sur des caches de munitions et d'armes, mais aussi en Iran, plutôt sur des sites militaires. Les Israéliens nous m'ont dit en fait que ne pas riposter serait un aveu de faiblesse.
Beaucoup Régine Delfour sur place en Israël. On va tout de suite écouter Daniel Agari, porte-parole de Tsahal, qui définit aussi cette riposte israélienne.
Nous ne pouvons pas rester les bras croisés face à une telle agression. L'Iran ne s'en sortira pas indemne.
Amine El-Khatmi, Israël ne peut pas ne pas riposter. Toute la question est de savoir dans quelle proportion Et avec quelle réponse après coup de l'Iran? Mais ça ne peut pas rester impuni, ce qui s'est passé. C'est une attaque extrêmement grave de la part de l'Iran.
Oui, bien sûr. Et Israël doit riposter d'abord pour assurer la protection de sa population, la protection de ses intérêts. Mais au-delà de ça, et c'est déjà une première raison suffisante, Israël doit riposter parce qu'elle doit défendre un modèle. En réalité, c'est une guerre entre deux visions de la société. C'est pour ça que lorsque j'entends que l'on met sur le même plan Israël et l'Iran, les qualifiant tous deux de théocratie, comme l'a fait la toujours subtile Madame Soudé, députée de la France Insoumise, qui a mis sur le même plan les deux pays en disant que ce sont deux théocraties. Non, il y a d'un côté une théocratie dirigée par des islamistes qui pourchassent les femmes qui veulent disposer librement de leur corps et qui ne veulent pas se voiler, qui enferment leurs opposants politique, qui pourchasse les minorités sexuelles, et de l'autre, vous avez une démocratie qui peut être contestée, dont on peut contester la politique du gouvernement, dont on peut même qualifier le gouvernement d'extrême droite si ça nous chante de le faire, mais qui reste une démocratie. Et donc, Israël doit aussi défendre, j'entendais cette phrase qui a été répétée depuis le 7 octobre, Israël est à la pointe de l'Occident. D'une certaine manière, en se défendant, Israël doit défendre l'Occident.
Louis Dragnel, la riposte israélienne ne fait aucun doute.
Bien sûr, non mais Amine El-Khatmi a entièrement raison. En fait, faut raisonner dans l'autre sens. Si Israël n'avait rien fait après l'attaque du 7 octobre, comme le demandait la communauté internationale, que se serait-il passé? Si Israël là aujourd'hui ne se défend pas et n'envoie pas le signal, c'est l'expression de la force. C'est pas forcément. En fait, il y a une confusion des mots. C'est pas l'expression de la violence. C'est pas Israël ne veut pas créer un bain de sang par principe. C'est simplement être respecté. Et puis, je pense qu'on parlait tout à l'heure, il y a un débat entre le camp du bien et le camp du mal. Bien, il y a un moment donné, je pense qu'il faut aussi que la communauté internationale fasse des vrais choix. On est face à un... Il n'y a pas de dilemme à avoir. Et en fait, il faut soutenir sans conteste Israël. Si demain, Israël était lâché... Ben non, mais, en fait, moi, c'est un débat que j'ai du mal à comprendre. Parce que si Israël ne se défendait pas, mais toutes les autres organisations terroristes se diraient, mais alors, c'est bon, on peut y aller. Allons-y gaiement. Et la communauté internationale dira toujours, attention, pas d'escalade.
La retenue.
Vous allez voir, les Nations Unies, comme d'habitude, vont dire... complètement contre la défense des intérêts de l'Occident. Et donc diront, attention, il ne faut surtout pas frapper, il ne faut pas riposter. Et puis la guerre, c'est sale. Évidemment que la guerre, c'est sale. Mais Israël n'a jamais demandé à être attaqué. Non mais le 7 octobre, Israël n'a jamais provoqué l'attaque du Hamas. Bien sûr. Là, Israël ne fait que se défendre. Et en fait, on inverse complètement les rôles. Moi, je trouve que c'est la plus belle, entre guillemets, fake news, puisque le mot est à la mode, de l'inversion des rôles. Où on a l'impression qu'Israël est devenu le méchant, alors qu'en réalité, Israël est menacé de toutes parts. Par toutes les organisations terroristes islamiques et par la lâcheté des pays occidentaux. Parce qu'en fait, il faut parler de la lâcheté. On est extrêmement faible. Si ça nous arrivait à nous...
Après les 300 attentes, missiles ou drones étaient arrivés sur la
si
France...
Si ça nous était arrivé à nous...
Nous serions en guerre.
Après Bataclan, les États-Unis, si d'autres des grandes puissances avaient dit « Ah mais non, les opérations Homo, vous savez, les opérations extrajudiciaires que la France peut commettre et commet régulièrement dans le monde pour éliminer... »
C'était sous François Hollande.
Mais on aurait tous été outrés. On se serait dit « Mais on a un droit légitime à se défendre. »
À nous défendre.
Eh bien, le droit que nous, on s'octroie pour nous-mêmes, en tout cas, on n'est pas capable d'accorder à Israël.
Alexandre Devecchio.
Il faut être cohérent, comme le disait Louis. Ce serait un précédent. On est aussi en guerre contre Vladimir Poutine. D'une certaine manière, et quel signal on enverrait quand Vladimir Poutine a violé la souveraineté de l'Ukraine, l'Europe a réagi et a été derrière l'Ukraine, ce qui était légitime. Après, on peut s'interroger, je suis aussi contre l'escalade dans ce cas-là, mais là, on parle d'escalade avant même qu'Israël ne puisse réagir. Et ensuite, je pense que sur le plan géopolitique, dans la tête des états-majors israéliens, du Premier ministre israélien peut-être, et des Israéliens eux-mêmes, il y a une question qui va se poser. Sans doute à court terme, la riposte va être une riposte pas très importante, mais la vérité, et c'est aussi qu'ils sont entourés d'ennemis. Là, ils sont obligés de s'occuper de Gaza. C'est pour ça que la riposte ne va pas être importante. Mais il y a le Hezbollah qui les menace de l'autre côté. Et il y a surtout l'Iran qui est en passe d'avoir l'arme nucléaire. Et là, il y a la question qui se pose. Est-ce qu'il faut intervenir ou pas
survie,
avant, c'est une question de survie.
Qu'en pense...
effectivement, pour l'Occident, est-ce qu'on a intérêt à ce que l'Iran ait la bombe nucléaire? Je ne suis pas sûr.
Non, c'est même certain qu'on n'a pas le droit. Je voudrais juste qu'on écoute les Israéliens. On leur a posé la question dans les rues de Tel Aviv, la façon dont ils envisagent cette riposte israélienne de leur armée. Écoutez-les.
Il ne s'agit évidemment pas, pour Israël, de toucher la population iranienne qui est sûrement acquise largement à la cause israélienne. Mais il faudra une réponse.
Concernant la riposte, ici, on l'attend. Très franchement, pas tant pour tuer des Iraniens. Les Israéliens ont une très bonne opinion de la population iranienne. C'est vraiment le gouvernement. Et on attend une riposte essentiellement parce que si on ne répond pas, ça met une sorte de rapport de force en faveur de l'Iran.
Écoutez, en Israël, on ne se pose pas la question si on doit ou non riposter à l'Iran. En Israël, tout le monde est d'accord dans l'unanimité qu'il faut répondre et réagir face à l'Iran. On essaye de nous demander à nous de la retenue alors que c'est le moment où il faut frapper l'Iran.
Pas de doute sur cette réponse et cette réponse israélienne, Sabrina
Mitchell. Oui, mais ce qui a été dit par Amine, Alexandre, est très juste. C'est une question de survie existentielle, évidemment. L'Iran, c'est quand même un pays qui finance le Hamas. On rappelle quand même l'article 7, l'article 35 de leur charte. Ils ont une vision de destruction, c'est une vision génocidaire. Ils veulent détruire Israël. Et puis l'Iran a quand même une particularité dans l'historicité du narratif politique, c'est-à-dire que moi je me souviens des propos de Mahmoud Ahmadinejad en 2005, absolument, qui disait il faut rayer Israël de la carte, c'était ses mots. Donc effectivement, c'est là où la question du nucléaire intervient, parce que la menace est précisément là. Donc après, il y a eu des accords de Vienne, Trump s'en est retiré, etc. Donc que fait-on, comment la communauté internationale va s'organiser avec l'AIEA pour pouvoir simplement produire du nucléaire civil et le limiter au nucléaire civil, parce que ça c'est quand même une question, il me semble, assez importante à traiter. Et puis après, je suis tout à fait d'accord. Si Israël tombe, c'est l'Occident qui tombe. Et encore une fois, nous le voyons en France, il y a eu plus de 1000% d'augmentation des actes antisémites. On ne peut pas nier, encore une fois, cette corrélation entre ce qui s'est passé en Israël et ce qui se passe en Occident. Je passe les manifestations à Londres, je passe les manifestations aux États-Unis, les manifestations en Allemagne, etc. Aujourd'hui, les Juifs en France vivent comme des dhimmis. On est revenu dans la thèse de Bataillard, je ne sais pas si vous connaissez cette grande essayiste qui a beaucoup écrit sur la façon dont les Juifs ont de vivre dans le monde arabo-musulman. Et aujourd'hui, dans cette république soi-disant fraternelle, les Juifs retirent leur mezouza, les Juifs ont peur de prendre des taxis, ont peur d'aller dans les restaurants, etc. C'est ça qui est grave et c'est ça que la politique doit être, encore une fois, ferme.
On va faire pause et on va évoquer dans un instant ces partis politiques qui rajoutent de l'huile sur le feu, sur une situation déjà explosive. Je parle bien sûr de la France insoumise. On écoutera Georges Bensoussan et puis on évoquera cette conférence qui doit avoir lieu à Lille avec Jean-Luc Mélenchon et une candidate européenne sur Salih Rima Hassan. À tout de suite.
Punchline. 18h-19h sur CNews et Europe 1. Laurence Ferrari.
18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer cette conférence de la France insoumise qui doit avoir lieu à l'Université de Lille ce jeudi. Une conférence qui provoque la polémique puisqu'elle a lieu au nom de l'association Libre Palestine qui prône un antisémitisme violent. Explication de Noémie Hardy. Je vous passe la parole ensuite à Mélène Katmi.
Sur l'affiche, Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan prennent la pause pour cette conférence sur la Palestine qui suscite de vives contestations. Organisée ce jeudi par une association étudiante à l'Université de Lille, les deux insoumis doivent y intervenir. Mais le logo de l'association a fait naître les critiques. Selon l'historien Georges Bensoussan, il sous-entend la disparition de l'État d'Israël.
Son slogan, c'est « Palestine libre ». Du fleuve à la mer. Qu'est-ce que ça veut dire, du fleuve à la mer ? C'est l'élimination de l'État d'Israël. C'est un slogan génocidaire.
Plusieurs personnalités politiques réclament l'annulation de la conférence. Le député Rassemblement national du Nord, Sébastien Chenu, dénonce la stratégie électoraliste de la France insoumise.
Un discours qui n'a qu'un but, hein. C'est faire des voix, aller mobiliser des populations qui sont sensibilisées à ce discours antisioniste, des populations qui sont sensibilisées à un islam radical, derrière lesquelles Jean-Luc Mélenchon court.
Et selon la députée Renaissance du Nord, Violette Spielboot, les insoumis ont infiltré l'université publique.
Là, ce qu'on voit, c'est Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan, tous les deux en conférence. Finalement, c'est un meeting électoral déguisé au sein de notre université publique, dans des locaux universitaires, et ce n'est pas leur destination. C'est là-dessus que j'ai souhaité alerter le président de l'université en particulier.
Des responsables de la France insoumise jugent ces critiques infondées ou malveillantes et affirment que l'université a bien validé cette conférence.
Amine El Khatmi, il y a beaucoup d'indignation autour de la tenue de cette conférence, mais aussi des propos très récurrents de la France insoumise à propos d'Israël. Mais la question est, est-ce qu'on ne leur fait pas trop de pub en réalité sur la tenue de cette conférence ? Est-ce qu'il faut continuer à en parler comme cela ou pas ?
Écoutez, il y a deux choses. moi, que des gens se réunissent pour parler de la Palestine ou même pour soutenir la cause palestinienne, c'est leur droit le plus absolu. Mais qu'on le fasse en prenant comme symbole une carte qui raye Israël précisément de la carte, puisque le slogan de la mer au Jourdain, je rappelle que le Jourdain, Madame Panot ne savait même pas le situer sur une carte, de la mer au Jourdain, ça veut dire qu'Israël n'existe plus. Ça, c'est un problème. Et puis, pardon, la deuxième chose qui est un symbole terrible, j'ai pas le sentiment que ça a été dit aujourd'hui, c'est que l'université de Lille, en 2017, c'est précisément là où la pièce de Charbes a été interdite sur pression de la Ligue des droits de l'homme et du MRAP qui ont hurlé à l'islamophobie. Et le précédent président de cette université de Lille a interdit la tenue de la pièce posthume de Charbes 2 ans après l'attentat en prenant le motif de la crainte de troubles à l'ordre public. Si une réunion où l'on réclame la destruction d'Israël se tient dans le lieu où les mots de Charbes n'ont pas pu être proclamés, je trouverais qu'en matière de symboles, il y aurait là quelque chose d'assez révoltant.
Quelle stratégie poursuit la France insoumise? En tout cas, Georges Bensoussan, qu'on a entendu brièvement, j'aimerais qu'on l'écoute à nouveau. Il était l'invité ce matin de Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1. Il compare aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon à Jacques Doriot, le fondateur du PPF, le parti fasciste. Écoutez Georges Bensoussan.
Ce parti, LFI, c'est le parti qui me fait le plus penser au populisme de Doriot. L'authentique risque de fascisme en France, c'est Mélenchon et ses sbires.
Mélenchon, Doriot, même combat,
oui,
ça va faire
combat.
Ce que vous dites.
Oui, même combat. Je suis assez historien pour le savoir, pour savoir ce qu'a été le PPF à partir de 1938-1939.
Poids de M. Bensoussan sont vraiment très très forts pour moi, Louis de Ragnel.
Moi, je souscris au fond de ce que dit Georges Bensoussan. En revanche, c'est vrai que moi, les comparaisons historiques, j'ai toujours un peu de mal parce que, évidemment, que Jean-Luc Mélenchon est tout ce qui vient d'être dit. Mais bon, je trouve que c'est toujours un peu risqué de faire ces comparaisons. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Jean-Luc Mélenchon n'est plus dans l'ambiguïté, même s'il se protège systématiquement derrière des artifices, derrière le droit, derrière tout ce que vient de dire Amine El Khatmi. Et puis ce que je trouve assez choquant là, particulièrement dans cette séquence, c'est que Jean-Luc Mélenchon donc va faire campagne à l'université. Moi, je pense que en fait les universités pendant les campagnes électorales ne devraient pas accueillir de
conférences politiques,
de conférences politiques ou de débats, parce qu'on sait très bien que c'est pas pour la stimulation intellectuelle, c'est simplement pour faire du racolage, pour trouver des militants. Et ça sert uniquement à ça, de faire des meetings politiques dans les universités.
Rachel,
Jean-Luc Mélenchon joue un peu sur la confusion, parce que demain soir, il tient un meeting à Roubaix, donc le lendemain, il sera à Lille. Et donc, il dit aux journalistes, mais attendez, moi, j'ai le droit de tenir une réunion publique à Roubaix, qu'est-ce qui choque, qu'est-ce qui pose problème? Alors qu'en réalité, on ne parle pas du meeting politique, on parle de sa conférence à l'Université de Lille.
Monsieur Rachel.
Les mots de Bensoussan m'ont fait penser en fait, à cette intervention de Léo Ferré en 1971, où il disait qu'en fait, une certaine gauche, c'était la salle d'attente du fascisme. Je trouve qu'on en est là aujourd'hui, malheureusement. Et on parle souvent d'entrisme. Déjà, il y a le symbole de l'université qui est entaché, mais pour moi, c'est plus que de l'entrisme, en fait. À partir du moment où c'est une colonisation mentale, c'est une colonisation, c'est une ingérence dans l'université. Et puis par ailleurs, on est en pleine campagne électorale sur les européennes et on oublie la construction européenne. L'Europe s'est construite après la Shoah. Donc en fait, on est complètement en décalé.
Mais l'Europe n'est pas leur sujet, Rachel.
Mais je sais bien.
Mais on ne parle jamais d'Europe.
Après, c'est Gaza. C'est de se dire qu'on a le monopole de la lutte antiraciste, que cette lutte, lutter contre l'apartheid, lutter contre les génocides, lutter contre la colonisation, c'est le cheval de Troie pour mettre à terre notre République et notre Europe.
Amine El Khatmi, cette gauche-là, ce n'est pas votre gauche. La gauche de la France insoumise, c'est peu de le dire.
Ah non, oui, c'est peu de le dire. La rupture est définitive, elle est irrévocable. Pour moi, l'après 7 octobre, mais ça avait commencé avant, mais l'après 7 octobre signe une rupture une rupture totale. Enfin, on se vote dans l'apologie du terrorisme, on explique que d'abord on ne qualifie pas le Hamas d'organisation de terroriste, puis après on dit que c'est une organisation de résistance. On fait des blagues sur des bébés dans le four et des femmes éventrées. Bon, je ne vais pas vous refaire la longue liste des abjections et des horreurs qui ont été commises. Je termine là-dessus. On dit souvent c'est une stratégie qui conduira Mélenchon à l'échec. Je n'en suis pas tout à fait certain, voyez-vous. Je pense que c'est une stratégie du chaos qui lui assurera sa petite boutique, puisque je ne crois pas qu'au fond de lui-même, son ambition soit de devenir président de la République. Il a compris que ça ne se ferait pas. Mais il a besoin d'une petite épicerie avec les ingrédients. Et je pense que cette stratégie-là lui assure l'ouverture de son épicerie.
Bon, Alexandre Devecchio, vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Il peut même être présent, être préélu président de la République, j'y crois pas, mais je crois que son objectif
au second tour.
Présent au second tour, en rassemblant finalement, malgré tout, une grande partie de la gauche, parce qu'il sera le meilleur en campagne et que la gauche n'a pas nécessairement de candidat alternatif. Il l'a fait presque une fois, hein. Il était à plus de 20%, il ne faut jamais l'oublier, à la dernière présidentielle. Et il parie aussi sur une forme de basculement démographique en France pour aller chercher des voix dans des quartiers qui seraient islamisés. Ça peut tout à fait réussir. Et l'étape d'après, c'est effectivement de ne pas prendre le pouvoir de manière démocratique, parce que quel que soit le candidat en face, il perdrait évidemment, mais de produire le chaos. En particulier s'il est face au Rassemblement National, pour dénier toute légitimité au Rassemblement National s'il était élu. Donc voilà effectivement la stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, pour en revenir à la conférence, je suis toujours embêté, moi, je ne pense pas qu'il faille interdire, parce que justement, je suis pour la liberté d'expression et j'ai peur que ce genre de réflexe retourne contre ceux qui, justement, veulent combattre l'islamisme. Mais ce qui m'inquiète, en réalité, c'est qu'il va y avoir du monde à cette conférence.
Ouais. Mais bien c'est sûr, ça. C'est ce que je disais.
C'est là où Amine Al-Khatmi a raison, voilà. C'est qu'il recrute parmi des minorités actives, d'ailleurs qui ne sont pas que dans les cités islamisées, qui sont effectivement dans les universités woke, à Sciences Po, parfois dans un univers très bourgeois et très, très bourgeois de gauche. Et donc, il va y avoir du monde. Donc,
on en a parlé, malheureusement. Mais on est obligé d'en parler.
Il faut aussi savoir, je pense que la meilleure des choses à faire est quand même de déconstruire tout
le
ça
discours,
et de nommer clairement l'adversaire.
Sabrina Medjeber.
Oui, par rapport à la stratégie électoraliste de Jean-Luc Mélenchon, je suis d'accord avec ce que disait Amine. Effectivement, il, lui, est dans la surenchère parce qu'il a intérêt à maintenir ses petits intérêts de boutiquier, d'incarner une forme de leader, vous savez, de ce qu'on appelle la convergence des luttes qui se transforme en convergence des rages, pardon, sur fond d'identité émiettée, assignation identitaire, etc., etc. Mais dans un même temps, j'observe que, par exemple, l'Union des musulmans de France commence déjà à rédiger des listes dissidentes pour les prochaines échéances électorales. Donc, est-ce que le discours, finalement, ou en tout cas la substance identitaire de la France insoumise à travers la transidentité, l'écologie punitive, etc. Tous les mantras qui constituent le discours politique de Jean-Luc Mélenchon va réussir finalement à infiltrer là où il pensait faire une opéra, sur le vote communautaire des quartiers.
Ouais.
Ce qu'il y a quand même,
j'entends.
C'est juste pour préciser, effectivement, il a eu un grand succès. En Seine-Saint-Denis, il y a eu des bureaux de vote qui ont atteint plus de 80% de vote pour Jean-Luc
12
Mélenchon.
12 députés sur 12.
Bah, exactement.
Mais c'est vrai, donc, c'est qu'il y a
une cartographie.
Il y a une abstention.
Attendez, pas tout en même temps. Sabrina, la liste pré-Palestine, exactement.
C'est celle-ci.
Absolument, par la France insoumise, donc il peut y avoir aussi une dissidence qui peut déstabiliser.
Durant les européennes, durant la présidentielle, ça me paraît plus compliqué, mais vous avez raison, il y a une opposition, et là je demande à réfléchir à des gens qui se prétendent progressistes, qui défendent les droits des homosexuels, des LGBT, mais les islamistes, c'est vos pires ennemis.
Bien sûr.
Si demain ils arrivent au pouvoir, vous serez les premiers à être décapités, pardonnez-moi de parler comme ça. Il y a eu un précédent, puisqu'on parlait de l'Iran tout à l'heure, c'est la révolution islamique, où il y a une alliance entre les communistes et les islamistes. On a vu comment ça a fini avec les communistes en prison et massacrés dès que les islamistes ont pris le pouvoir. Donc c'est une stratégie effectivement
il faut le dire,
très dangereuse.
Courir fort.
Amine El-Khatmi.
Exactement.
Oui. Parce que j'en ai qu'à la fin, ça risque de mal tourner pour eux.
Ça va mal tourner pour eux.
Au milieu de tout ce chaos et de ces inquiétudes, il y a quand même un visage qui se surmonte cette actualité, celle d'un héros français qui s'est dressé en Australie face au terrorisme islamique. Il s'appelle Damien Guéraud. En tout cas, lui, il s'est interposé sur une attaque au couteau dans un centre commercial. On ne sait pas encore si cette attaque est due au terrorisme, mais il s'appelle Damien Guéraud. J'aimerais juste qu'on écoute alors ces quelques mots sur la façon dont il a réagi. Il s'est interposé entre l'assaillant au couteau avec un plot pour sécuriser les lieux. Il parle en anglais. Bon, c'est un Français, mais il parle en anglais parce qu'il était interrogé par la télé australienne. Écoutez-le.
J'ai essayé de l'attraper, mais il descendait des escaliers. Nous l'avions suivi depuis l'étage du dessous pour éventuellement lui lancer la borne dessus, mais ce n'était pas possible. Nous avions besoin de quelque chose pour l'attraper. On n'a pas réfléchi sur le moment. Il est impossible de penser à ces moments, c'est de l'adrénaline pure. Ses yeux étaient vides. C'est comme s'il était totalement vide de l'intérieur.
He wasn't there. Ça fait du bien, Aminel Khatmi, d'avoir des figures de héros. On a tellement d'anti-héros aujourd'hui qu'avoir un Français qui se dresse contre le terrorisme...
Oui, bah on exporte nos talents, c'est bien.
Oui. Pour une fois qu'on peut être les Australiens veulent le garder.
Ils veulent même le garder, donc on va leur demander de nous le rendre, peut-être. Mais c'est vrai que c'est au-delà de l'admiration qu'on peut avoir pour le geste. Moi, j'écoutais votre première partie en venant vers vous dans la voiture et je trouvais votre discussion passionnante sur, effectivement, ça nous interroge sur nos propres réactions, nos propres capacités.
Qu'est-ce qu'on ferait ?
Effectivement, cette fameuse question qu'aurions-nous fait pendant la guerre ? Alors évidemment, tout le monde se voit résistant, mais la réalité, c'est qu'on n'en sait strictement rien. C'est que face à la vérité des faits, on ne sait pas comment se comporter. Et dans une situation comme ça, bah, effectivement, on ne sait pas comment se comporter. Et ça rend d'autant plus admirable le geste de quelqu'un qui, lui, manifestement, n'a pas beaucoup hésité.
Non, Rachel Kahn, voilà, c'est important d'avoir aussi des gens qui s'opposent, des gens qui se dressent contre l'obscurantisme et la barbarie.
Absolument. Alors, j'entends hein, sur la réaction, parce qu'on ne sait pas effectivement comment on peut réagir, comment on réagirait, etc. Mais dans le même temps, je crois que le courage, ça s'éprouve, même par des petits gestes du quotidien, même par des prises de parole, n'est-ce pas, mon cher Amine ? Le courage, en fait, c'est quelque chose qui se travaille, même si on peut avoir quelque chose en soi qui nous fait réagir dans une situation donnée, je crois que des petits gestes du quotidien, l'apprendre aussi, le transmettre à nos enfants, c'est important. Mmh. Après, dans des situations aussi de fait, on voit très bien que lorsqu'on commence à aider quelqu'un dans la rue ou à faire quelque chose, souvent, eh ben, ça se propage.
C'est contagieux, le courage.
Exactement.
Oui, le courage de Panurgis.
Aujourd'hui, dans un espèce de contexte de pas de vague où les gens détournent le regard, etc., c'est sûr que le courage est une espèce en voie de disparition.
Bien sûr. Mais il faut célébrer tous ceux qui se dressent au quotidien. Allez, on continue ce débat juste après le rappel des titres de l'actualité. Il est pile 18h30. Simon Guilain est là.
L'armée israélienne confirme avoir tué un commandant du Hezbollah dans une frappe dans le sud du Liban. Et dans le même temps, le Hezbollah revendique le lancement de 2 drones explosifs dans le nord d'Israël. Le mouvement libanais affirme avoir frappé les rampes de lancement du dôme de fer. Depuis ce matin, une cyberattaque paralyse l'hôpital de Cannes. Toutes les opérations non urgentes ont dû être reportées. Le centre hospitalier a pris la décision d'activer une cellule de crise en lien avec l'agence régionale de santé. Tout le personnel est mobilisé sur place pour mener les investigations nécessaires. Et puis Donald Trump est arrivé aujourd'hui au tribunal de Manhattan pour le 2e jour de son procès historique. L'ancien président américain s'est plaint de ne pas pouvoir faire campagne alors que son rival Joe Biden est lui sur le terrain. C'est un procès qui n'aurait jamais dû exister, a-t-il ajouté. Donald Trump est poursuivi pour paiement dissimulé à une ancienne star du X juste avant la présidentielle de 2016.
Merci beaucoup Simon Guilain. Louis Dragnel, une information qui nous parvient concernant le 80e anniversaire du débarquement de Normandie, qui va être évidemment fêté dans notre pays. La Russie sera bien conviée à ces célébrations, mais pas Vladimir Poutine. Ça confirme une information Europe 1.
Absolument. C'était un peu un sujet tabou à l'Élysée. Est-ce qu'il faut inviter ou pas Vladimir Poutine pour le 80e anniversaire du débarquement? Alors, il y a les puristes, les historiens qui vous disent, bon, bah, même si Vladimir Poutine est infréquentable, fait l'objet de condamnations internationales, eh bien, il faut quand même l'inviter, quitte à se contorsionner dans tous les sens. Et il y avait même l'idée qui avait été suggérée de créer une zone internationale autour des plages du débarquement pour éviter qu'un mandat d'arrêt ne puisse être exécuté contre Vladimir Poutine. Et puis d'autres qui vous disaient, mais c'est hors de question, on enverrait le signal de soutenir Vladimir Poutine. Là, c'est la décision qui a été prise, c'est un peu due en même temps. C'est-à-dire que la Russie sera représentée,
bien sûr,
vraisemblablement,
est-ce qu'ils viendront
à travers la présence de l'ambassadeur.
D'accord.
L'ambassadeur ne viendra que si le Kremlin
l'autorise
à y aller. Je pense qu'il viendra parce que, au regard de l'histoire, c'est très important pour la Russie d'être présente, d'autant plus que la Russie porte une responsabilité historique, non pas dans le débarquement, mais
dans la bataille de
règlement, en tout cas de l'issue de la Seconde Guerre mondiale.
Décisif. Amine Al-Khatmi, il ne fallait pas, on ne pouvait pas inviter Vladimir Poutine, malgré le sacrifice du peuple russe pendant la Seconde Guerre mondiale.
C'est des questions compliquées. En tout cas, on ne peut pas réécrire l'histoire. On ne peut pas effacer l'histoire, quelles que soient les péripéties du présent. Ce qui s'est passé il y a 80 ans maintenant, c'est bien passé. Donc, on va pas. Les Russes avaient l'habitude d'effacer des gens, des photos. Voilà. On ne va pas faire la même chose en supprimant la Russie de l'histoire. Donc, qu'il y ait à minima l'ambassadeur, ça me paraît normal.
Mm-hmm. Alexandre Devecchio.
Oui, pour une fois, je suis assez pour le en même temps. Je pense que c'est quelque chose d'habile, puisque même si on est en conflit avec Vladimir Poutine, l'enjeu, c'est qu'on a un voisin qui s'appelle la Russie et de ne pas coaliser le peuple russe derrière son chef. Donc, je pense que c'est une décision politique plutôt habile, mesuré, et pas non plus tomber dans la culture de l'effacement qu'on dénonce par ailleurs.
Très bien. Eh bien, écoutez, Sabrina,
d'accord.
On est d'accord. Et Louis, Louis Dragnel,
le contexte, parce qu'on en parle quand même un peu moins, mais c'est aussi le diagnostic des services de renseignement occidentaux, c'est que ça va très mal en Ukraine. L'armée ukrainienne perd des kilomètres carrés par kilomètre carré. Et ce qui est assez... Parce qu'eux, la projection qui est faite par les services occidentaux, c'est que dans 6-8 mois, ça va être très compliqué pour l'armée ukrainienne de faire face à la Russie, qui est en train de doubler la présence de ses soldats sur le front. Donc là, on a quand même l'impression qu'on se dirige vers une sorte de cul-de-sac pour l'armée ukrainienne...
Malheureusement.
Sur son territoire.
On va faire une petite pause. Merci à vous, Amine Al-Khatmi. Merci pour votre courage et vos paroles si fortes. Dans un instant, on continue à évoquer la réponse israélienne après l'attaque iranienne avec Manuel Valls, ancien Premier ministre. Il est notre invité ce soir. À tout de suite.
Punchline. 18h-19h sur CNews et Europe 1. Laurence Ferrari.
18h39, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, toujours avec Alexandre Devecchio, Rachel Kahn. Notre invité ce soir, c'est Manuel Valls. Bonsoir Manuel Valls.
Bonsoir.
Merci d'être ce soir sur nos antennes. Israël est dans une position où il ne peut pas ne pas riposter face à l'attaque de l'Iran. On a entendu Georges Bensoussan, historien, qui disait que c'est impossible que Israël ne montre pas qu'on ne peut pas l'attaquer impunément. Est-ce que cette réponse doit être mesurée? Est-ce que vous appelez, comme toutes les capitales occidentales, à la retenue, attention à l'escalade, c'est ce qu'on entend énormément. Vous comprenez ce discours ?
Je lisais hier, ou je relisais un très beau livre de votre consoeur Sylvie Kaufmann sur la Russie et l'Ukraine, et notamment sur la réaction des Occidentaux après l'invasion de la Crimée par Vladimir Poutine en 2014. Et je retrouvais ces éléments de langage que vous venez d'évoquer.
Pas d'escalade de la retenue.
Pas d'escalade de la retenue, bien évidemment. Personne n'a envie d'un conflit, d'une extension, encore moins d'une troisième guerre mondiale. Enfin, regardons objectivement ce qui s'est passé. L'Iran, pour la première fois, le régime des Mollahs, pour la première fois depuis 1979, attaque de manière frontale Israël, certes. Israël, les États-Unis, la Jordanie, les Britanniques, les Français, semble-t-il, ont empêché ces centaines de missiles et de drones d'arriver en Israël. Donc la prouesse technologique, la défense israélienne a réussi, grâce à cette prouesse technologique, à éviter des morts et des destructions. Mais incontestablement, l'Iran, son régime, qui intègre le temps long, teste non seulement Israël, sa capacité aussi d'attaque, mais la réaction des États-Unis et des Occidentaux. Donc, nous voyons bien que d'une manière ou d'une autre, avec le temps nécessaire, faisant en sorte que chacun comprenne quelle peut être la réaction d'Israël, l'État hébreu doit réagir. On ne peut pas laisser une telle attaque sans une réaction et sans une solidarité avec Israël. C'est aux Israéliens de décider le type de frappe, mais en fait, trop souvent, je trouve, que ce soit sur l'Ukraine, sur ce qui s'est passé évidemment le 7 octobre, nous semblons réagir comme si tout devait s'arrêter en 2-3 jours, comme si nous n'intégrions pas le temps long. Le temps long, c'est quoi? C'est demain, les Iraniens peuvent posséder l'arme atomique. Il y a un archiite qui s'est créé en Iran, bien sûr, en Irak, en Syrie, au Liban. L'Iran utilise le Hezbollah, les milices en Syrie ou en Irak, ces milices au Yémen, les Houthis qui frappent non seulement Israël, mais qui sont aujourd'hui en train de perturber une partie du commerce maritime international qui passe par la mer Rouge et le canal de Suez. Et on ne ferait rien, des sanctions. Le régime iranien est déjà frappé de sanctions. Donc oui, moi j'estime qu'avec la retenue nécessaire, bien évidemment, mais il faudra, à un moment ou l'autre, frapper durement ce régime, oui.
Manuel Valls, vous avez dit que la France a, semble-t-il, participé à l'interception de ces drones. Elle l'a fait, le président Macron l'a confirmé. Est-ce que la France aurait dû faire plus ou est-ce que c'était une espèce de « en même temps »
Non, là, elle est dans son rôle. Le ministre des Affaires étrangères l'a rappelé. Nous avons des bases aux Émirats, une autre en Jordanie. Donc c'est à partir de cette base que des interceptions, pour reprendre les termes, ont été opérées. Mais moi, ce que j'attends des pays occidentaux, européens, des États-Unis bien évidemment, et donc de la France, c'est une très grande solidarité avec Israël, beaucoup plus affirmée que ce que nous avons eu jusqu'à maintenant. On dit, M. Valls dit ça parce qu'il est pro-israélien. Non, c'est pas le sujet. Israël est en première ligne face à l'Iran, face à l'islamisme, avec les manipulations de l'Iran. Tout le monde sait que l'Iran est derrière le Hezbollah, paradoxalement aussi, même s'ils sont sunnites, derrière le Hamas, derrière ces organisations terroristes. C'est un régime qui peut aussi pratiquer, ne l'oublions pas, le terrorisme d'État. Et nous serions là en train d'imaginer une négociation internationale comme celle qu'on a connue. Non, l'Iran veut avoir la bombe atomique. Vous savez, il y a quelque chose qui me frappe vis-à-vis des régimes totalitaires. C'est qu'on ne croit jamais à ce qu'ils disent, à ce qu'ils écrivent. Et l'Iran, depuis 1979, le régime des Mollahs, proclame pour des raisons politiques, théologiques, religieuses, mystiques, veut la fin, proclame la fin de l'État d'Israël, d'ailleurs qui n'appelle pas comme ça, puisqu'il l'appelle l'entité sioniste.
Emmanuel Valls, vous étiez très en colère la semaine dernière contre Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères, qui appelait des sanctions contre Israël pour permettre l'envoi de plus d'aide humanitaire à Gaza. Aujourd'hui, tout est pardonné ?
C'est pas une question ni de colère ni de pardon, mais ces déclarations sont peut-être à remettre dans le contexte. Mm-hmm. Parler de sanctions à l'égard d'Israël à partir de ce qui se passe à Gaza, alors même que quelques heures ou quelques jours après, Israël subissait une attaque, parce que c'est une attaque frontale qui n'avait jamais eu lieu, et avec une dimension technologique massive, c'est une faute, je l'ai dit. Là. Bon, évidemment, il peut y avoir un dialogue toujours à la fois sérieux et franc avec le gouvernement israélien, mais Israël, je le répète, est en première ligne. Il y a encore des otages, dont trois de nos compatriotes. Nous avons perdu des dizaines d'otages franco-israéliens. Israël est une démocratie. Donc la menace, elle vient de l'Iran, nous le savons, et c'est dit. Et donc parler dans ce contexte-là, à partir de ce qui se passe à Gaza, de sanctions, ne me paraît pas correspondre au rôle historique de la France et à son rapport avec Israël, qui est un rapport d'amitié, de solidarité qu'il faut poursuivre.
Alors, j'aimerais qu'on écoute, Manuel Valls, le témoignage poignant de Guy Benchimone, un survivant de l'attaque du 7 octobre, qui se trouvait dans le festival techno dans le désert. Il évoque les traumatismes de ceux qui sont rescapés de ces attaques, de ce pogrom, et surtout le suicide de dizaines de survivants. Écoutez ces mots et on va réagir ensuite.
Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais on a atteint le chiffre de 50 suicides parmi les survivants du festival Nova. C'est un chiffre qui date d'il y a 2 mois. Il se peut qu'il ait augmenté depuis. Il y a beaucoup de survivants hospitalisés contre leur gré. J'ai beaucoup d'amis qui ne sortent plus de chez eux et restent dans leur lit. Moi-même, je ne sors plus de chez moi. Je ne vois pas comment je vais m'en sortir pour le prochain mois. Les aides et le soutien psychologique s'arrêtent au mois de mai. Notre objectif, c'est de retourner travailler. Et que nous, les survivants, on soit assez courageux pour retourner travailler. Il est hors de question de voir nos amis de nouveau plonger en dépression.
Les séquelles des survivants, Manuel Valls, sont terribles à long terme.
Elles sont terribles, mais vous savez ce qui est terrible, vous, c'est pas un reproche que je peux vous faire, à vous sur ce plateau et à cette chaîne. Mais ce que nous avions les uns et les autres peut-être deviné, c'est qu'on a voulu effacer, c'est une entreprise de négationnisme que vous évoquez souvent, Rachel, oui. De négationnisme du 7 octobre. 1200 tués dans des conditions atroces. Il y a encore des dizaines d'otages. Ce conflit pourrait s'arrêter si le Hamas délivrait tous les otages, si ses dirigeants se rendaient ou partaient. Et les souffrances, y compris des Gazaouis, seraient terminées. Ils sont ce bouclier utilisé par cette organisation islamiste et terroriste. Mais ce chantage aux otages, qui n'est pas suffisamment dénoncé par nos gouvernements, ce chantage terrible, le sort des otages actuels, donc ça fait des mois, six mois qu'ils sont... les conditions, les viols, les tortures, les femmes enceintes, sans doute, s'ils sont délivrés, et je le souhaite de tout cœur, on nous dit que beaucoup, malheureusement, sont décédés, mais avec quel témoignage, après ce que nous venons d'entendre, eux reviendront-ils après avoir passé quatre mois de plus que ceux qui ont pu être, heureusement, libérés. Donc c'est effrayant ce que cette organisation terroriste et islamiste fait subir aux Gazaouis et a fait subir aujourd'hui aux Israéliens, dont trois de nos compatriotes.
Rachel Kahn, une question ?
Alors, j'ai une question, effectivement, je partage sur le traumatisme à la fois des Gazaouis, à la fois de ces rescapés, mais aussi, on sait très bien que ces traumas-là se transmettent de génération en génération. On en a pour preuve Georges Perec, qui n'avait pas pu connaître ses parents après la Shoah et qui s'est suicidé aussi. Et la question que je voulais vous poser, moi, c'était par rapport au droit international et par rapport à cette situation. J'ai l'impression que le droit international n'est plus à la page, que le droit international est à la traîne par rapport à la situation terroriste, en fait, dans cette région-là.
Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, dans les semaines, dans les mois qui viennent, quand ce conflit sera, je l'espère, terminé, même s'il faut travailler beaucoup sur l'après, sur la reconstruction de Gaza et sur les différentes solutions politiques qui devront être très imaginatives, hein, qui ne doivent pas répondre aux éléments de langage du Quai d'Orsay. On doit s'en éloigner, mais il ne faudra pas lâcher l'affaire, si vous me permettez cette expression, sur le rôle de l'UNRWA, sur sa complicité dans les exactions à partir d'un certain nombre de ses membres. Je m'étonne.
Une des filiales de l'ONU, hein, c'est ça ?
Oui, une des filiales de l'ONU qui s'occupe du statut des réfugiés des Palestiniens, que son directeur soit toujours en place, est pour moi évidemment une absurdité. Sur la traduction devant la Cour pénale internationale des responsables du Hamas, sur les traumas, jamais la société israélienne, sinon avec les rescapés de la Shoah, mais évidemment dans un autre cadre, dans un autre contexte, n'aura connu un tel traumatisme profond. C'est une raison de plus pour être en solidarité avec le peuple israélien.
Une question peut-être d'Alexandre Devecchio sur la situation politique en France.
Sur peut-être la géopolitique, sur la situation de l'Iran. Enfin, on revient un peu sur la question iranienne, pardon. Emmanuel Macron a parlé de la Russie comme d'une menace existentielle pour l'Europe. Vous avez rappelé tout à l'heure que l'Iran pouvait potentiellement avoir l'arme nucléaire. Est-ce que ce n'est pas aussi une menace existentielle pour l'Occident ?
Bien sûr, et d'abord pour Israël. Il faut toujours penser à Israël, entouré d'États hostiles, beaucoup manipulés aujourd'hui, d'organisations hostiles, manipulées par l'Iran, même s'il y a une bonne nouvelle. C'est la réaction de la Jordanie et des pays, notamment...
L'Arabie Saoudite.
Et des pays notamment qui demain seront dans le cadre des accords d'Abraham, que beaucoup ont sous-estimé et critiqué, mais qui sont très importants. Bref, de l'islam sunnite, des pays arabes sunnites. Mais pour Israël, c'est un problème d'existence. C'est un problème existentiel. Donc ça nous concerne, nous. Donc je ne veux pas exagérer les menaces ici ou là, mais évidemment que l'Iran a un objectif, comme d'autres pays d'ailleurs. Je ne crois pas beaucoup à l'axe du mal ou à ces mots, mais enfin, Iran... qui fournit des missiles, des drones à la Russie pour frapper l'Ukraine. Le président Zelensky l'a rappelé, les rapports avec la Turquie, avec la Chine. Ils ont tous le même discours. Un discours contre l'Occident, contre ses valeurs, contre la démocratie.
Contre les démocraties. Manuel Valls, en France, la situation politique est inquiétante. La France insoumise ne cesse de jeter de l'huile sur le feu. Une conférence doit se tenir à Lille avec Rima Hassan, qui figure sur la liste des insoumis aux européennes, et Jean-Luc Mélenchon, à l'initiative d'une association pro-Palestine, avec un logo où on voit que Israël n'existe plus en réalité, que ce n'est plus que la Palestine. Est-ce que cette conférence doit se dérouler? Est-ce qu'elle doit être interdite? Comment voyez-vous ces manœuvres de la France insoumise?
Il faut la combattre politiquement. Il veut mettre le feu au pays et créer les conditions du chaos.
Jean-Luc Mélenchon.
Oui, et la France insoumise, là, dans les universités, demain, dans les quartiers, à travers, en instrumentalisant la question de la Palestine, après avoir pendant des mois tenu un discours antisémite. Moi, le mot antisémitisme ne veut plus rien dire, en diffusant la haine des Juifs et la haine d'Israël, ou la haine des Juifs à travers... la haine d'Israël. Donc, moi, je pense que, ici ou là, il peut y avoir des interdictions, mais le vrai travail, il est politique. Il est de récupérer l'espace public, les amphithéâtres dans les universités, à Sciences Po. Ce qui est insupportable, c'est que, par exemple, Mme Albanès, s'il y a cette rapporteure générale des Nations Unies qui tient des propos antisémites, puisse être accueillie à Sciences Po, et que quand on veut organiser un meeting à Sciences Po contre cette idéologie wokiste ou contre l'antisémitisme, on ne puisse pas le faire. Donc c'est aux organisations politiques, syndicales, à la société civile de se réveiller. Quand il faut interdire, mais l'essentiel, c'est de combattre ce discours de haine. Raison de plus pour que, à gauche, oui, si c'était nécessaire, la clarification soit totale et absolue. Pas uniquement à travers Jean-Luc Mélenchon. C'est trop facile. À travers la France insoumise. Il ne peut pas y avoir d'accord, pas avec Jean-Luc Mélenchon, mais avec la France insoumise, avec tous ceux et toutes celles qui soutiennent cette liste, avec le symbole de cette candidature qui fait passer un message très clair quant aux objectifs. Moi, je pense qu'ils n'y arriveront pas à créer les conditions d'une forme de guerre civile. Mais attention, c'est quand même l'objectif, c'était dit tout à l'heure sur votre plateau, de créer les conditions à chaque fois d'une fracture et d'aider au chaos et d'aider à la victoire du Rassemblement national, puisque c'est ça la stratégie de Jean-Luc Mélenchon.
Pour créer le chaos. Rachel, peut-être une dernière question.
Oui, je suis assez frappée parce qu'en réalité, la guerre qui est menée, évidemment, au premier plan, il y a Israël, on le voit bien, et derrière, finalement, cette extrême gauche-là, elle mène une guerre contre l'universalisme. Et je suis assez frappée, vous parliez des associations, la société civile, mais de l'absence de réaction d'institutions comme la DILCRA, par exemple, qui ne réagit pas à ça.
Bien sûr, il y a beaucoup de lâcheté dans les lignes de front. Il y a évidemment l'Ukraine, il y a ce qui se passe au Proche-Orient, il y a la ligne de front de l'islamisme dans nos propres sociétés, avec le soutien, nous le voyons aux États-Unis, nous le voyons en Europe, dans les universités, mais pas seulement, du hockey, de la cancel culture. On ne peut pas revenir à nos petites affaires politiques, savoir quel va être le score des uns et des autres. Enfin, c'est important, j'en suis évidemment conscient, mais les fractures sont tellement puissantes dans la société que sans une réponse très puissante, qui est ce que moi j'appelle une forme de républicanisme de combat, de bataille, il faut une réponse très puissante, sinon on n'y arrivera pas. Et de réveil, parce que sinon ce sont ces extrêmes qui l'emporteront.
Mais qu'est-ce que vous dites aux Français ce soir, Manuel Valls, qui ont peur, qui savent que le risque d'attentat est à son niveau maximum, qui voient l'insécurité, qui...
Il faut leur dire la vérité. Il faut leur dire la vérité. Nous sommes dans un moment de bascule de l'histoire. En Ukraine, au Proche-Orient, nous sommes dans un moment où la part tragique de l'histoire revient, où la guerre, sous des formes différentes, évidemment la guerre hybride, dans les médias, à travers la désinformation, sur les réseaux sociaux, et là, et la guerre, la vraie, elle est là aussi au Proche-Orient, et évidemment en Ukraine. Donc il faut un réveil, il faut un sursaut, il faut évidemment des moyens pour nos forces de défense ou de sécurité, il faut un réveil civique. Et que tous ceux qui aiment ce pays, qui aiment cette nation, qui a des atouts, qui partagent ces valeurs républicaines, se mobilisent.
Notre nation est endormie ou pas ?
Ah, en grande, c'est normal, 70 ans de paix, les Français sont, et je le comprends, davantage préoccupés, c'est normal, par le pouvoir d'achat, aussi évidemment par les questions de violence, de sécurité, mais ça nous oblige à un réveil et à une forme de dépassement de nous-mêmes qui me paraît être essentiel. Prenons exemple sur ce que font les Ukrainiens et les Israéliens dans des conditions évidemment très différentes, mais qui savent ce que sont les risques existentiels pour eux.
Merci beaucoup Manuel Valls d'être venu ce soir dans Punchline, CNews Europe 1. Merci Rachel Kahn, Alexandre Devecchio. Dans un instant, Europe 1 soir et Face à l'info sur CNews. Bonne soirée sur nos deux antennes. À demain.
18h-19h sur CNews et Europe 1.
Punchline, Laurence Ferrari.